c'è scalicoglione, gialle ci corvete, 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 corvete.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, donc la radio de la Fédération anarchiste. C'est Jeudi Noir, donc pour sa deuxième édition mensuelle. Et ce soir, donc, nous avons le plaisir d'avoir invité Alain Brossat, donc pour son dernier ouvrage, Le Plébéien Enragé. Donc vous avez sans doute pu entendre parler samedi, mais bon, on se dit que c'est pas une raison pour ne pas en reparler. Voilà, donc Alain Brossat, je vous le présente rapidement. Alors professeur à Paris 8, Vincennes.
Retraité.
D'accord. Et auteur de nombreux ouvrages, quelques-uns qui m'ont marqué personnellement, comme Le Serviteur et son Maître, Le Grand Dégoût Culturel, Le Sacre de la Démocratie, d'autres bouquins plus, encore plus consistants, comme L'Épreuve du Désastre, et bien d'autres encore. Je ne vais pas faire toute la bibliographie parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, et ce soir donc, nous allons parler du dernier livre qu'il a publié, qui s'intitule Le Plébéien Enragé, en sous-titre Une contre-histoire de la modernité de Rousseau à Lozay. C'est aux Passagers clandestins, donc vous le trouvez facilement en librairie, je pense, si vous évitez les grandes enseignes, et même peut-être dans les grandes enseignes, allez savoir. Voilà, donc Alain Brossat pour Le Plébéien Enragé. Vous venez d'entendre une musique éthiopienne. Vous pourrez trouver les références sur le site Jeudi Noir. Donc vous tapez Gurdulu, Jeudi Noir. Normalement vous tombez dessus directement. Voilà. Donc, j'avais deux, trois questions à vous poser au sujet de cet ouvrage, pour que vous présentiez un petit peu, peut-être d'une autre façon que samedi, je sais pas trop, j'ai pas écouté. Voilà, donc, alors vous êtes... il paraît qu'on doit se tutoyer, moi j'ai beaucoup de mal. Je vais maintenir le vouvoiement, parce que je suis un vieux con. Même si j'en ai pas l'air, un jeune con. Bon. Donc voilà. Alors c'était vous. Bon, en termes de référence, vous avez beaucoup travaillé. J'ai l'impression. Vous me corrigerez si je me trompe. Par rapport à Hannah Arendt et par rapport à Foucault, entre autres choses, philosophiquement en tout cas, ça fait partie. J'ai l'impression des deux auteurs ou les deux pensées qui vous servent un peu de repère, hein, plus ou moins. Et donc par rapport à Foucault, je me demandais, Foucault a confessé ou a écrit, je sais pas trop comment dire ça, que il avait du mal ou qu'il avait jamais réussi à franchir ce qu'il appelait à franchir la ligne, c'est-à-dire à parler d'autre chose que du point de vue du pouvoir. Et vous, au contraire, à travers plusieurs ouvrages, il semble que vous vous situez résolument, justement pas du côté de la description. Ou d'analyse des mécaniques du pouvoir, mais plutôt de tout ce qui peut interrompre cette jolie mécanique qui tourne aussi bien. Que ce soit du côté du serviteur ironique, dans Le Serviteur et son Maître, hein, qui n'arrête pas de rire et de tout déplacer par ce rire et par son humour, hein, ou là, d'une façon un peu plus, et j'y reviendrai de façon un peu plus polémique, le côté du plébéien, et en particulier du plébéien enragé. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, ou est-ce que c'est une question complètement imbécile?
Non, mais je pense... bonsoir d'abord, et puis je pense que si Foucault... Enfin, je situe pas exactement cette remarque de Foucault à propos de sa supposée difficulté à quitter le point de vue du pouvoir, mais s'il l'a proféré sous cette forme-là, franchement, je pense que c'est une coquetterie de sa part, parce que, quand même, notamment dans toute sa période relativement activiste, disons, où il mène de front, et sa carrière philosophique et des activités publiques, qui sont des activités très ouvertement politiques, Foucault parle quand même, je ne dis pas du tout qu'il parle au nom de la plèbe, ça jamais, mais disons que Foucault parle en s'établissant dans une position qui est quand même une position assez distinctement, je dirais, plébéienne, dans laquelle il montre sa différence à travers un certain nombre de gestes forts par rapport, disons, à... d'une part au côté du pouvoir, en tant que le pouvoir serait, disons, les gouvernants, et puis aussi des gestes symboliques qui sont très, très clairement des gestes de dissidence et d'impertinence par rapport à tout ce qui est institution académique. Et là, je pense notamment à tout ce qui tourne autour de son engagement sur la question de la prison, le GIP, aller faire le gugus à la porte des prisons avec les familles de prisonniers, comme il le fait dans les années 70, sous Giscard, c'est assez distinctement faire le pas de côté en direction de la plèbe, quoi. Et on retrouve ce geste dans des actions comme dans des textes, un certain nombre de préfaces qu'il écrit, par exemple, à des livres écrits par d'anciens détenus très politisés, des gens comme Livrozet, des gens comme Knobelspitz à l'époque, qui jouent un rôle très important dans les mobilisations autour des prisons. Donc Foucault fait un certain nombre de préfaces qui sont des préfaces au vitriol, qui sont pas exactement des choses qu'on attend de la part de quelqu'un qui fait une belle carrière philosophique, qui est destiné au Collège de France, etc., ou qui est déjà au Collège de France, etc., etc. Son séminaire sur Pierre Rivière, avec tout ce que ça a drainé, le film d'Aliot derrière et tout ça, bon... Je pense que Foucault, le pas de côté, il a su le faire. Alors en même temps, Foucault est un personnage et un philosophe complexe, donc il y a d'autres facettes, ça c'est certain. D'autres moments où il était plus dans le jeu du pouvoir, ça c'est vrai, oui, certainement. Cette capacité de différer d'avec lui-même, il l'avait, et d'aller du côté, enfin d'entrer dans des rôles, des gestes plébéiens aussi, je pense que, enfin, j'aimerais bien qu'on en ait autant aujourd'hui. Voilà.
Donc, quant à vous, pour le choix parce que ce que je voulais dire, c'était. Parce que tout ça, oui, c'est vrai que Foucault s'est engagé de ce côté-là, mais je pensais à des grands livres, éventuellement, où il allait. Que ce soit Surveiller et punir, ou que ce soit L'histoire de la folie, ou quelques autres. Il est toujours dans la description, pas forcément dans l'adhésion, c'est pas ce que je disais, mais dans la description des mécanismes du pouvoir. Et on a toujours l'impression, alors Deleuze disait que chez Foucault, les résistances étaient premières, son petit livre, mais en même temps, on voyait bien qu'il cherchait à le défendre. Et on a l'impression que... alors, je ne sais plus non plus où est cette phrase de Foucault. Ça, c'est malheureux, je l'ai oublié. Mais on avait l'impression quand même qu'il était essentiellement dans la description des mécanismes du pouvoir. Et peut-être moins dans ce qui va rompre cette mécanique. Et c'est pour ça que ça m'intéressait, l'histoire du plébéien, de ce point de vue-là. Et le choix de ce personnage.
Non, si on regarde bien quand même... bien sûr, il y a une phase d'intensité, disons, c'est ces années 70 où il va vraiment vers la politique, où il... c'est difficile d'employer le terme d'engagement ici, parce que c'est un thème sartrien et que Foucault s'est construit contre Sartre, mais bon, quand même, il mouille sa chemise, disons, tout simplement, sur des causes où ce qu'il rencontre, c'est pas le prolétariat respectable, syndiqué, etc., comme il le dit lui-même, son affinité, il le dit pas comme ça, mais c'est clair, son affinité, elle est plus avec le peuple algérien du 17 octobre 61, les noyés algériens du 17 octobre 61, qu'avec le peuple, disons, mémoriel, infiniment respectable, bien sûr, de Charonne, quoi, qui est un autre peuple, qui est un peuple communiste, national, qui a son panthéon, etc., etc. Que les autres, ils disparaissent sans trace, on ne sait même pas leur nom. Bon. Et Foucault, il est de ce côté-là, quand même. Bon. Donc ça, c'est sa phase, évidemment, c'est le moment le plus intense, disons. Bon, mais quand même, ça traverse cette histoire de la plèbe, c'est-à-dire des gens qui savent parler, mais dont la parole n'a aucun statut, n'a aucune autorité, donc ils sont inaudibles à ce titre-là. Des gens qui ne laissent pas de traces dans l'histoire de la civilisation, de la nation, de la culture, etc. Ça, c'est quand même une thématique qui est éparse qui, et qui traverse son œuvre de bout en bout, je veux dire. Et donc, il y a une petite musique du plébéien et de la plèbe chez lui. C'est pas, pour moi, c'est le plébéien et la plèbe, c'est pas la même chose. Mais chez lui, et du plébéien et de la plèbe, qu'on retrouve quand même, qui est jalonné par des textes, je sais pas moi, c'est quand même pas pour rien qu'il publie La vie des hommes infâmes dans les Cahiers du chemin, qui est pas une revue universitaire, mais qui est un petit, que je sache, une petite revue anarchiste, quoi. Enfin bon, voilà. Donc ça s'est maintenu chez lui, c'est une veine chez Foucault. Oui, je crois qu'il faut lui rendre ça, parce qu'il a été beaucoup attaqué là-dessus. Rancière parle du blabla inconsistant sur la plèbe, ou quelque chose comme ça, il est très anti comme ça. Donc, après tout, il n'a pas été beaucoup suivi, je veux dire. Et c'est très important, parce que pour penser la politique, enfin, il me semble que pour penser la politique, il faut présenter une figure du peuple, d'une façon ou d'une autre. Et chez Foucault, assez distinctement quand même, ce qui a pour lui une capacité d'incitation pour donner figure au peuple, à un peuple qui serait un peuple politique, c'est quand même plutôt ce qu'il appelle la plèbe, ou les hommes infâmes, ou... Bon, il y a toutes sortes de plusieurs dénominations, mais en gros, ça tourne autour de la plèbe chez lui, oui.
D'accord. Alors donc, dans un ouvrage précédent qui, alors je vous dis en préface que celui-ci y fait suite, c'était Le serviteur et son maître, et là vous êtes passé au plébéien enragé. Alors moi je m'interrogeais sur justement le passage du serviteur au plébéien. Qu'est-ce que vous entendez par plébéien ici?
Bon, alors voilà, il faut un peu donner les prémices de cette histoire-là, parce que en deux mots, dans le premier, Le serviteur et son maître, il y avait quand même un sous-titre, Essai sur le sentiment plébéien. Donc, le serviteur et le plébéien, pour moi, sont quand même très, très étroitement relatés l'un à l'autre. Mais dans le premier, en fait, j'ai été emporté par le côté ensoleillé de la chose. C'est-à-dire, je fais une espèce de généalogie du plébéien, comme personnage, mais comme personnage qui est un personnage comme un... une sorte de concept avec un visage humain, quoi, ou un nom propre, disons. Je fais une généalogie du plébéien dans notre modernité en le présentant comme le personnage de l'égalité par excellence, quoi. C'est-à-dire celui qui, venant de tout en bas, de la position du serviteur, va entrer dans toutes sortes de conflits, de situations d'adversité avec le maître, qu'on appelle le maître, c'est évidemment des situations épurées, et va présenter l'égalité dans des jeux d'affrontement qui passent par le discours, qui passent par la parole. Il va montrer qu'il est dans sa maîtrise du langage, tout simplement, qu'il a des capacités au moins égales à celles du maître. Il présente l'égalité en acte, et il présente une figure politique qui est une figure intéressante, parce que si les personnages dont je parle, c'est-à-dire Le Figaro de Beaumarchais, Jacques le fataliste de Diderot, sont des personnages, disons, en gros contemporains de la Révolution française, ils sont déliés du modèle violent de la Révolution française, parce que ce qui les intéresse, c'est pas de prendre la place du maître, c'est pas de tuer le maître, on n'est pas donc du tout non plus dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est de présenter l'égalité et de produire un trouble qui peut être repris perpétuellement par la suite, c'est-à-dire montrer que ce motif de l'égalité tel qu'il est présenté par un serviteur qui sait parler et qui éventuellement est en colère, la colère, les affects sont importants, ça c'est quelque chose qui peut être repris sans fin. Et la politique va revenir par ce biais-là. Donc de ce point de vue-là, la démocratie, c'est pas un truc d'institution avec des élections, les machins, tout ça, tout ce qui va avec. La démocratie, c'est cette potentialité. La démocratie comme forme moderne de la politique, bien sûr, c'est cette potentialité infinie pour un serviteur de présenter l'égalité. Donc le premier bouquin, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, ça c'est un parcours ensoleillé de la modernité, parce que j'essaie de montrer que ça va donc de ces personnages qui sont même d'avant la Révolution française, qui la traversent bien sûr, mais jusqu'à nous, quoi, puisqu'on retrouve ça dans le Matis de la pièce de Brecht, et dans des...
Comment ? Vous citiez le soldat
Schweik aussi. Oui, le soldat Schweik, bien sûr, et puis aussi, on l'identifierait, bien sûr, dans le cinéma, dans des figures encore plus contemporaines. Bon. D'accord, donc j'ai publié ce bouquin, que personne n'a lu, tant pis pour moi, mais... Voilà. Après, quelque chose a fait son chemin. J'ai donc un peu fait le deuil de ce bouquin. En voyant surgir au fil de mes lectures, de réflexions diverses, etc., un autre visage du plébéien, qui est un visage beaucoup moins sympathique, qui tend vers l'obscurité, lui, qui est tout autant un personnage du plébéien moderne, qui est le plébéien qui s'enrage, justement. Et que j'essaye de reprendre dans ce livre, En gros, je reste dans la même généalogie qu'essaye du plébéien dans ses rapports à la modernité, comme une figure constitutive de la modernité. Ça tourne toujours autour, disons, de ces rapports entre un serviteur, mais qui n'est pas un serviteur à sa place, qui est un serviteur qui sort de sa place, qui ne tient pas en place, qui est mu par des affects, la colère, l'indignation, etc. Mais qui, dans cette nouvelle généalogie que j'explore ici à travers des œuvres littéraires, et pas les moindres, puisque je pars de Rousseau, les Confessions, je traverse successivement Le Rouge et le Noir, Les Odures, Le Vent, je débouche sur L'Amant de Lady Chatterley, donc c'est pas des petites choses, je repère chaque fois le plébéien, et c'est pas moi qui l'invente, c'est chaque fois l'auteur qui le désigne comme tel, de façon plus ou moins insistante, mais chaque fois c'est l'auteur qui le désigne comme tel, ou le narrateur, enfin, peu importe, et j'arrive donc au cinéma, parce que je pense que c'est le cinéma qui a la forme, qui travaille le plus aujourd'hui cette figure, ce personnage du plébéien. Et je montre comment là, ça, le personnage tend à s'effondrer, ou à tomber dans des chemins de traverse, en tant que personnage de l'égalité. Il est toujours un personnage de l'égalité, mais il se trouve que quelque chose fait que son combat s'enraye, ça tourne mal, plus ou moins mal. Il devient soit vraiment, mais proprement enragé, ça c'est dans Les Hauts-de-Hurlevent, le vent, c'est-à-dire pour moi un proto-fasciste, j'appelle ça un proto-fasciste, soit complètement enfin, mélancolique, assez amer, c'est notre cher jardinier dans le roman de Lawrence, ou bien un petit calculateur en habit noir, comme Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir. Voilà, donc c'est ça, ça diverge à un moment donné. Bon, évidemment, pourquoi je fais ça ? Bon, je vais arrêter parce que je ne vais pas faire un boulevard. Mais pourquoi je fais ça ? Parce que je pense à une actualité dans la politique. Je veux dire, le fond de l'affaire, c'est travailler sur deux choses que je n'envisageais pas du tout dans le précédent. La tristesse, comme un affect, qui est un affect évidemment collectif, et qui est un affect politique. Ça, je veux dire, déjà, Spinoza nous donne des éléments pour comprendre ça. Et la fatigue. Pourquoi est-ce que politiquement nous sommes tellement fatigués aujourd'hui ? Pourquoi une telle fatigue pèse sur la vie politique, ce qui se traduit par sa dégradation perpétuelle ? Voilà, au fond c'est ça. Donc la littérature est un passage, là je passe par la littérature, c'est pas un passage instrumental, mais ce qui m'intéresse encore et toujours c'est la politique. Pardon, j'ai parlé trop longtemps.
Non, pas du tout. Vas-y. On va vous passer un peu de musique, voilà, et puis histoire que vous méditiez toutes ces sages paroles, et puis on reprendra après.
Oui.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, donc la radio de la Fédération Anarchiste. C'est la deuxième partie donc, de Jeudi Noir qui reprend. Nous avons toujours comme invité, il n'est pas parti, Alain Brossa, pour son ouvrage Le Plébéien Enragé, et une contre-histoire de la modernité de Rousseau à Lozay, donc édité au Passager Clandestin. Voilà, donc on a, en première partie, nous avons vu un petit peu le rapport à Foucault, ou du moins les débats sur ce que Foucault avait pu faire ou dire. Et puis ensuite, la question du plébéien, qu'est-ce que c'est qu'un plébéien? Alors il y avait deux ou trois autres questions que je me posais, moi c'était déjà, d'une certaine manière, pourquoi la fiction? Qu'est-ce que vous pensez que ça... Qu'est-ce que vous cherchez à faire à travers justement l'étude de cette fiction? Il me semble que vous cherchez à éviter la sociologie, je crois que c'est très net, vous le dites dans la préface. C'est peut-être lié juste à votre sujet, parce que le plébéien, c'est justement celui qui refuse qu'on lui assigne une place. Et la sociologie, c'est typiquement une discipline qui assigne des places. Donc, il me semble que là, il y a un point relativement important, du moins, est-ce que vous pouvez préciser, développer ou objecter?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, effectivement. Éviter une approche sociologique, mais il y a un autre point qui est très important pour moi, qui est éviter une approche historiciste de ces questions-là. Ça, il faut que je m'explique en deux mots là-dessus. Ça part du geste philosophique, disons. Faire de la philo, ça sert à quoi? Foucault, bon, je reviens toujours à Foucault, c'est ma marotte. Bon, Foucault dit une chose très simple. Il dit qu'il y a deux façons, en gros, de faire de la philo. Une façon, que la façon classique, traditionnelle, qui est de travailler sur les essences, sur ce qui ne change pas, qui est éternel, donc la substance, l'âme, l'esprit, le corps, bon, etc., etc. L'homme, bien sûr, de préférence avec une majuscule. Et une autre façon, qu'il définit comme la sienne propre, qui est de s'interroger, de se poser la question de ce qui est spécifique dans notre présent. De quoi notre présent est-il fait en propre, en particulier, etc. Et donc en relation
c'est
avec ça...
C'est pas justement dans ce qu'il écrit sur « Qu'est-ce que les Lumières de Kant ?»
Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est dans ce texte-là, mais il le reprend dans toutes sortes d'autres textes. Ce que j'ai en tête, c'est une discussion avec des Japonais en 78 au Japon. Bon. Et derrière cette question, il y en a une autre. Quel est l'événement constitutif de ce que nous sommes dans ce présent-là ? Qui peut être une question assez chrétienne d'ailleurs, qui Foucault, bon, l'est en partie sans doute, mais bon, pour nous, pas vraiment, j'imagine, qui est très importante pour ce que je traite là. Parce que si je prends une approche par l'histoire chronologique, historiciste, je veux dire, quel est l'événement qui nous constitue comme ce que nous sommes dans le présent? Évidemment, la tentation, ça sera de répondre, c'est la Révolution française. Mais là, il y aura tout de suite une grande difficulté, parce que dès que nous allons commencer à en parler, les uns vont dire « Oui, d'accord, c'est la Révolution française, alors donc moi je prends mes personnages, je prends Saint-Just, je prends Robespierre, je prends pas Danton parce qu'il est corrompu. » Les autres vont dire « Non, moi je prends pas Saint-Just et Robespierre parce que c'est la terreur, et la terreur je suis contre. » Et d'autres diront je pense à cela, bon, etc., etc. Donc l'événement va se diffracter, l'événement va partir en morceaux, l'événement de référence va partir en morceaux, etc. On aura toujours cette difficulté-là. Bon. Et donc, moi, je préfère construire ma généalogie en partant non pas d'une origine, il n'y a pas d'origine absolue, mais d'une sorte de provenance, en cherchant donc la provenance qui constitue l'événement, du côté de personnages, qui sont ces personnages empruntés à la littérature, parce qu'on peut beaucoup plus facilement les avoir en partage. Je veux dire, sur la Révolution française, ce que je dis, c'est très banal, parce que c'est Kant qui a dit ça. Hein. Il dit, peu importe que l'événement Révolution française, il présente des aspects terribles, etc., ce qui importe, c'est la position du spectateur qui va en tirer, etc., etc. Bon. Donc j'essaye de contourner ce problème que Kant soulève lui-même, en allant donc plutôt vers des personnages qui sont des personnages qui, à mon avis, ont une présente pour ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la question de l'égalité, comme le cœur de la politique, qui sont des personnages incontestables. Figaro est incontestable. Jacques est incontestable. Ils sont incontestables dans la façon dont ils envoient le maître dans les cordes. Et ils sont incontestables en même temps en tant qu'ils sont bel et bien des figures politiques. Je veux dire, c'est pas du tout faire une lecture stalinienne ou comme faisaient les staliniens dans les années 50 d'une certaine littérature qui tirait de leur côté.
Alors Jacques, c'est Jacques le Fataliste et son maître de Diderot, donc un ouvrage, un roman absolument hilarant à lire de toute urgence si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis Beaumarchais,
Mariage de Figaro. Voilà. Et donc... Ce sont des personnages, c'est la pièce de Beaumarchais, les pièces de Beaumarchais, le roman de Diderot, on peut les lire de mille façons, hein, je ne dis pas que la lecture que je fais ici, dans laquelle j'essaye de, donner forme à une opération politique, quoi, un geste politique, je ne dis pas que c'est la seule qui vaille, naturellement, ça serait ridicule, mais je dis qu'on peut l'y trouver, et à bon escient, on est fondé à le faire. Bon, donc ces deux-là, comme des pèlerins de l'égalité, et pas n'importe quel pèlerin de l'égalité, pas justement la différence avec Robespierre, c'est ça, c'est que ce n'est pas des petits avocats de province, ce sont des serviteurs. Et des serviteurs qui sont tout sauf des domestiques. Des serviteurs qui sont sans cesse en lutte contre tout esprit de subalternité. Et plus que ça, qui montrent l'inconsistance de la position du maître. Il suffit qu'ils commencent à avoir une discussion avec le maître et ils manient une telle ironie, ils ont une telle maîtrise du langage qu'ils font la démonstration la plus irrécusable qu'il soit, qu'il y a de l'égalité. Et que cette égalité, on la trouve dans ce jeu entre deux sujets qui sont les plus asymétriques qui soient, un serviteur et son maître. Voilà. Bon, et là, je dis, il y a une figure politique increvable. Et c'est pour ça que je pars de la littérature. Donc ça, je reprends ce principe-là dans le plébéien enragé, avec l'idée qu'il y a une politicité de la littérature quand elle est bonne, quand elle est vraie. Pas toute littérature, l'essentiel de ce qui se publie comme littérature aujourd'hui est totalement futile, donc s'il y a de la politique, c'est la pire qu'on puisse y trouver. Mais dans cette littérature-là, oui, il y a une condition politique de cette littérature-là. Et d'ailleurs, je fais une critique de la façon dont l'école, l'institution universitaire dépolitise massivement ce type de roman pour y retrouver les essences éternelles dont nos chers écoliers auraient besoin, le cœur humain, machin, etc., etc. Bon, voilà. Le rouge et le noir, c'est bon. Et je montre au contraire qu'il y a une pointe politique, qu'il y a toujours des configurations, c'est toujours lié à une configuration politique, et qu'il faut redonner ses couleurs politiques à ces romans. Et donc, y retrouver la figure du plébéien, c'est ça, notamment, c'est ça.
Alors, une autre question sur les enjeux, je suis désolé, j'aime bien situer les choses au maximum, c'est par rapport aux Lumières, parce que vous dites une contre-histoire de la modernité, et j'ai l'impression que vous assimilez la modernité et les Lumières, plus ou moins peut-être.
Moi je suis, alors la question des Lumières c'est compliqué, parce que je pense que les Lumières, il faut surtout pas avoir une approche historiciste des Lumières, justement, c'est parce que les Lumières c'est pas un truc que nous aurions derrière nous, c'est un héritage énorme, très très intimidant, mais en même temps ce qui nous serait légué comme un trésor, et que nous aurions la charge, comme on dit aujourd'hui, de bien gérer.
Oui, c'est un patrimoine. Bon.
C'est un patrimoine, voilà. Il ne faut pas avoir une relation patrimoniale aux Lumières. Les Lumières, c'est peut-être un processus, mais donc dans lequel, disons, c'est ce quelque chose, un quelque chose de relativement indéterminé dans lequel nous sommes encore inclus. C'est ça qu'il faudrait dire. Donc, de ce point de vue-là, les Lumières, c'est ce qui ne finit pas. Donc, c'est une énergie, c'est des flux. Mais en même temps, ce que j'essaye de faire apparaître dans ce dernier bouquin là, c'est que les Lumières, elles se diffractent d'emblée, quoi. C'est-à-dire, il y a pas un moment où ça tourne mal. Bon, là, il faudrait rendre, disons, à des gens comme Adorno et Horkheimer ce qu'on leur doit dans le fameux bouquin qui s'appelle La dialectique des Lumières, mal traduit en français, La dialectique de la raison. Il montre comment d'emblée le mythe est au cœur des Lumières, comment Sade, c'est aussi les Lumières, donc c'est pas si simple que ça. Les Lumières, ça se réduit pas à Condorcet, c'est-à-dire au fameux escalier du progrès, etc. Bon, voilà. Et je pense que c'est en ce sens-là quoi, qu'il faut travailler l'humain. Donc j'essaye de le faire en montrant comment le personnage du plébéien, comme personnage qui nous vient des Lumières, voilà, le lieu de provenance, de provenance de tout ça, c'est certainement les Lumières, mais c'est un personnage qui se diffracte d'emblée, quoi. Donc je le reprends dans Le Plébéien enragé, je reprends à propos de Beaumarchais, précisément, en disant, attention, il y a une troisième pièce de Beaumarchais que personne n'a lue, et qui s'appelle La Mère Coupable, qui est la dernière, et qui est une pièce où tout change, c'est-à-dire où Figaro a perdu tout son tranchant. Et Figaro est devenu un personnage vertueux au service de son maître. Il a retrouvé sa place. Donc il est là, il déjoue le complot d'un intrigant qui veut capter la fortune du maître. Mais c'est un personnage... Enfin, il a vieilli dans tous les sens du terme. Il y a une fatigue qui pèse sur lui. Il a perdu sa superbe, il a perdu son ironie. Il a perdu l'essentiel de ce qui faisait de lui un plébéien. Il est redevenu le bon serviteur. Oui, il est devenu plutôt. Il est devenu le bon serviteur. Donc c'est une pièce, heureusement... Pas grand monde la connaît, La Mère Coupable. C'est une pièce absolument désespérante. C'est une pièce sur la fatigue, c'est une pièce sur le couple qui n'a plus rien à se dire. Chacun a fait ses petites affaires dans son coin et tout. Bon, et c'est misérable. Tout a rapetissé et je le rappelle, dans le bouquin, il y a un commentaire extraordinaire de Peggy dans Clio. De cette pièce, où il montre Beaumarchais a compris ce que tout ça allait devenir. Et ce qui est extraordinaire, dit Peggy, c'est qu'il l'a compris avant même la Révolution française. Donc c'est un don de vision qui est inimaginable, c'est une prophétie incroyable, puisqu'il prévoit ce qui, dans le cours de l'événement qui nous fonde par excellence, va mal tourner, avant même que l'événement ait eu lieu. Ce texte de Peggy, dans Clio, il est anthologique.
Clio, la nouvelle histoire.
Ouais.
Ouais. Ouais. C'est, vous pouvez trouver, c'est pas forcément facile à trouver comme texte.
Oui, c'est difficile.
Il est dans la Pléiade.
Oui, c'est ça.
Dans les œuvres complètes. C'est assez long. C'est du Peggy.
Il faut
s'accrocher parce que c'est un style particulier. Moi, j'aime bien.
Attention, Peggy, c'est pas tout la célébration des cathédrales. Hein.
Non,
jamais oublier ça.
Peggy, au début, c'était un socialiste révolutionnaire quand même. Bon, lui aussi, il a mal tourné. Il a été fatigué, allez savoir. Mais bon.
Il a mal fini. Il a fait refuser.
La fleur au fusil, sur le chemin des dames ou un truc comme ça. J'ai oublié exactement, mais au tout début de la guerre. Mais bon, faut oublier les poèmes patriotiques. Il y a des choses bien chez Peggy aussi, avant.
Le cahier de la quinzaine,
Avant les notre jeunesse et d'autres choses comme ça, qui sont quand même de beaux ouvrages aussi. Donc je me disais, oui, par rapport aux Lumières, c'est intéressant ce que vous disiez, parce que je voulais voir, entre histoire de la modernité, qu'est-ce que c'était. C'était par rapport aux promesses trahies, finalement, de la modernité ou des progrès, enfin du progrès nous sommes tous égaux, on peut tous apprendre, et finalement, tout va s'arranger. Finalement, avec Le Plébéien, vous essayez de montrer peut-être que, justement, c'est aussi une histoire de l'échec. Que vous tracez à travers ces quatre personnages, ces cinq personnages, parce que ce soit Jean-Jacques dans les confessions qui finit seul et isolé de tous, entouré de complots plus ou moins imaginaires, que ce soit Julien Sorel qui finit sur l'échafaud, si ma mémoire est bonne, et puis Léo de Hurlevent, ça fait très longtemps ça. Heathcliff, il finit bien, Heathcliff.
Heathcliff, non, il finit dément.
Il finit dément, c'est ça.
Et puis surtout, oui. c'est une bombe humaine. Il détruit tout
ce qui est autour de lui. Oui.
Tout autour de lui.
Ouais. Et par contre, le dernier, là, je l'avais pas. L'amant de la guiche attendait, ça, je l'avais pas lu.
C'est indéterminé. La fin est indéterminée. On ne sait pas s'ils vont partir en Amérique, ou si finalement ils vont succomber à l'amertume. Ça, c'est là. Il y a trois versions de l'amant de la guiche Chatterley, mais dans la dernière, le génie, à mon avis, de Lawrence, c'est de laisser. C'est sans suspens, c'est avec des points de suspension, c'est pas. Chacun fait sa fin comme il veut.
Ouais, donc c'est des récits de l'échec. Alors, c'est un peu... D'un côté, on avait le serviteur qui se moquait de son maître, mais ne renversait jamais la chose. Ne renversait jamais vraiment la relation de pouvoir objective telle qu'elle existe. Il y en a un qui a l'argent, l'autre pas, etc. Donc bon. Et puis, du côté du plébéien enragé, ben, c'est aussi le récit d'un échec.
On est dans cette tension, je dirais, entre un mouvement qui est tout à fait distinct, qui est particulièrement distinct aujourd'hui, qui serait, je dirais, celui de la restauration perpétuelle. Mmh. On est dans la restauration perpétuelle, mmh. et... ça devient, en un sens, c'est comme dit Walter Benjamin, les ruines s'accumulent, quoi. Donc, on en est à l'âge Xème restauration depuis la Révolution française, quoi. Bon. Donc ça, c'est ce qui nous accable et c'est ce qui fait qu'on se détourne de la politique, c'est ce qui fait qu'on est gagné par l'amertume, qu'on est fatigué, et qu'on est triste. Bon.
Et qu'on vote utile quand on vote.
pas moi, mais que beaucoup votent utile. Moi non. Je pense qu'au contraire, il faut voter inutile. Que si on doit voter, je sais qu'ici, la plupart ne votent pas, mais que si on doit voter, au moins qu'on vote inutile. C'est quand même la moindre des choses. Bon. Mais en même temps, la figure du plébéien, elle est là comme un sémaphore, parce qu'elle nous rappelle que dans cette condition même qui est la nôtre, où nous sommes les spectateurs plus ou moins affligés et impuissants de cette restauration perpétuelle, il y a cette contre-force, on est dans ce jeu comme chez Foucault quand il parle du pouvoir de force et de contre-force, cette contre-force qui est toujours là, qui peut toujours être réactivée, qui peut toujours ressurgir quelque part, par un biais ou par un autre, en ayant un visage nouveau chaque fois, et qui est celle, justement, de ce serviteur qui sort du rang, qui sort de sa place, et qui fait la démonstration que oui, l'égalité, c'est quelque chose qui est toujours représentable, qui peut toujours revenir dans le jeu, et revenant dans le jeu de la restauration sans cesse perpétuée, va brouiller les cartes, et va ouvrir un espace, va ouvrir une scène. Et c'est sur cette scène-là qu'il y aura de la politique. Autant qu'il n'y a pas du tout de politique là où on nous dit, on nous répète, on nous ressasse qu'est la politique, c'est-à-dire dans les élections, les émissions, machin, etc., etc. Bon, dans le jeu des gouvernants, il n'y a pas de politique. La politique, le gouvernement des vivants, comme ça se pratique aujourd'hui, c'est quelque chose qui consiste aussi à refouler la politique vive à proprement parler. Mais la politique va revenir dans ses retours de l'égalité. Et pour ça, il faut qu'il y ait un porte-parole. Il faut qu'il y ait une voix. Il faut qu'il y ait un corps. Il faut qu'il y ait une voix. Et c'est de plus en plus souvent, me semble-t-il, des figures plébéiennes. C'est pas les partis.
Pour nos éditeurs, quand vous dites qu'il n'y a plus de politique, je peux peut-être préciser, si j'ai bien compris, en fait, d'une certaine manière, vous pensez qu'il n'y a plus que de la gestion, d'une certaine manière, et il n'y a plus de politique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflits. Je ne sais pas si idéologique conviendrait, mais...
Il y a plusieurs niveaux. Premièrement, ce qui passe pour la politique aujourd'hui, c'est-à-dire en gros la prise en charge du vivant, le gouvernement des vivants, la population, faire vivre la population, faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens, que les enfants soient vaccinés, que les gens votent tous les 4 ans, si c'est tous les 4 ans, que ceci, cela, ça c'est une administration, c'est l'administration du vivant, c'est l'administration de la vie, bon. Ça, c'est pas politique, parce que c'est des formes de prise en charge qui sont très sophistiquées, variables, ça marche plus ou moins bien, bon, mais voilà. Et puis, il y a l'autre niveau qui est que ce qui se donne comme l'héritage, même la forme institutionnelle de la politique, qui est censée être héritée donc de la fin de l'Ancien Régime, la démocratie, ils appellent ça la démocratie, ça ne marche plus. Il faut le dire très ouvertement, ça ne marche plus. C'est un astre mort. Donc ça se perpétue parce que un astre mort, il peut continuer sur sa trajectoire pendant longtemps.
L'inertie fonctionne.
Mais ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ça ne peut même plus entretenir, comment dire, l'illusion auprès du public, quoi. Que ce serait une forme adéquate, je veux dire, c'est complètement effondré, ne reste plus, je dirais, que ce visage cadavérique d'un gouvernement oligarchique, qui va encore et toujours se peindre des couleurs roses de la démocratie, mais tout le monde sait que c'est un gouvernement oligarchique.
De la démocratie.
Le fondement de ça, c'est que c'est quand même censé être la représentation. Tout le monde sait que la représentation, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est un phénomène mondial. Enfin, c'est partout. Et c'est d'autant, ça se voit d'autant mieux là où on n'est pas dans les démocraties fatiguées comme chez nous, mais là où on est censé être dans des toutes jeunes démocraties. Là, il suffit de se rappeler quoi que là, les élections de refondation de la démocratie au Mali. Hein, je sais qu'on a ramé. Bon, d'accord. Les législatives. 38% de participation, 38%, les élections de refondation de la démocratie au Mali. Bon, je veux dire, ça fonctionne pas, ce truc-là ne fonctionne pas. Donc, la politique, elle part ailleurs, parce qu'il faut bien... À partir du moment où il y a de la conflictualité, il doit bien y avoir des moments politiques, et la conflictualité, Dieu sait qu'elle est toujours là, quoi qu'ils en disent. Donc, la politique va revenir par les bords, elle revient par les bords, elle revient hors institution, et elle revient notamment dans ces moments où il y a des flux d'égalité, qui sont portés par des acteurs non autorisés, qui n'ont pas la légitimité conférée par l'institution. Mais c'est là qu'elle est la politique. La politique vive, elle revient par ce biais-là. Et c'est pour ça que j'insiste, moi, sur cette figure du plébéien, parce que là où le peuple institutionnel, disons, le peuple des élections est aux abonnés absents, ben, c'est un peuple sauvage, c'est un peuple irrégulier, c'est un peuple un peu énergumène qui revient. Et bon, moi j'appelle ça la plèbe, ou le plébéien, quand on va le prendre du côté de figure littéraire ou autre, mais voilà, c'est comme ça. Alors il y a tout un jeu aussi avec les noms propres dont il faudrait parler, parce que c'est aussi très important. C'est quand surgit un nom, qui est un nom qui n'a pas d'autorité, c'est-à-dire qui est un nom qui passe pas à la télé, qui n'est pas sur des livres, qui n'est pas ceci, cela. Ça, c'est très important. Quand quelqu'un dont le destin est d'être sans nom commence à attraper un nom et que ce nom devient, commence à exercer une force d'attraction pour que se compose une force politique. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça, c'est tout à fait important. Et il me semble que la politique, elle vit, elle revit, elle revient ce côté-là. Donc toujours autour de la question de l'égalité, bien sûr, et à travers ce type de figure. Mais pour le reste, moi je suis tout à fait catégorique, la politique, ce qu'on nous vend comme politique, aujourd'hui, c'est un astre mort, oui.
Donc sur ces mots, nous allons faire une petite pause musicale.
Pour se remettre.
Black girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun never shine. I wish you were all night too. Black girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. In the pond where the sun never shines, I will shiver all night too. Black girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pond where the sun never shines, I will shiver all night too. My husband was a railroad man, killed a mile and a half from here. His head was found in a driver's wheel, and his body haven't been found. You called me to weep, and you called me to moan. You called me to leave my home.
Donc Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
C'est Jeudi Noir pour sa troisième et dernière partie. Jeudi Noir donc avec Alain Brossa, qui nous parle, entre autres choses, parce qu'il nous parle de beaucoup de choses. Mais on en est très contents. Donc il nous parle de son livre Le Plébéien Enragé, une contre-histoire de la modernité de Rousseau à Lozay, donc Passager clandestin. Voilà, donc c'est un livre agréable à lire et puis qui aborde plusieurs figures de la littérature, mais aussi, si vous avez bien suivi jusqu'ici, donc de la politique. Alors justement, bah, on pourrait peut-être un peu en parler, même si vous avez déjà abordé le sujet de différents biais, parce qu'il y a une progression dans votre ouvrage. Donc vous partez de Rousseau et des Confessions. Donc pour ceux qui ont suivi, qui se disent « Mais quoi, Rousseau, les Confessions, c'est une autobiographie, c'est pas de la fiction ?» Justement, la question se pose, c'est que Jean-Jacques, le personnage qu'on appelle comme ça, pour désigner en quelque sorte l'alter ego de Rousseau, c'est en partie aussi une composition littéraire, hein, même si ça s'appuie sans doute, sans aucun doute, sur des événements réels. Il n'empêche que la recomposition qu'en fait Rousseau le porte à quelque chose d'un peu différent, je pense, que d'un simple reportage sur la vie de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Voilà, donc vous partez de Rousseau, et justement, Rousseau, vous le présentez comme une espèce de... Enfin, Jean-Jacques, plutôt, on va dire ça comme ça, une espèce de... Comment dire, le plébéien sous tous ses aspects, avec à la fois ce que vous appelez le côté ensoleillé, mais aussi le côté sombre, le côté où justement il va montrer par ses talents, par son énergie, sa fougue, qu'il vaut bien ses maîtres, ou qu'il vaut bien ceux qui pensent être ses supérieurs, et qu'en même temps il va pas arrêter finalement d'avoir des conduites qui conduisent tout droit dans le mur et dans l'échec. Et ça, c'est quelque chose qu'ensuite vous allez suivre aussi, j'ai l'impression, chez Julien Sorel, le personnage de Stendhal, mais aussi chez Heathcliff. Bon, lui, c'est autre chose, c'est un personnage qui est complètement autodestructeur, enfin destructeur et autodestructeur. Donc, alors là, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses là-dedans. Et justement, vous insistez beaucoup sur le fait que le plébéien, c'est celui qui brouille les catégories sociales. C'est pas forcément celui qui cherche à acquérir une position de pouvoir, c'est pas forcément celui qui cherche à rester en bas, c'est celui qui, pour dire les choses brutalement, fout un peu la merde partout où il passe, d'une certaine manière. Alors, et vous articulez ça au sentiment égalitaire. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Parce que je trouvais qu'il y avait un passage intéressant, vous dites, Rousseau va exprimer ça à travers sa singularité. Moi, Jean-Jacques, en quelque sorte, je suis semblable aux autres, mais je ne serai jamais le même que les autres. Et vous voyez là-dedans quelque chose qui permet de jouer justement tous les thèmes de la liberté et de l'égalité.
Oui, bon, Jean-Jacques, il est vraiment l'ennemi de la sociologie, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il est celui qui est rétif à toutes les catégories. Il est le personnage qui vient de nulle part, on peut dire qu'il vient vraiment de nulle part. Il va... Il ne cherche pas non plus à parvenir, c'est ça le problème. Donc le refus de parvenir, donc il est en un sens tout le temps en délicatesse avec ce qu'on pourrait appeler le social, quoi. Il ne veut pas qu'on lui donne sa place, il ne veut pas qu'on lui attribue sa place, donc il est de ce point de vue-là, il est tout sauf un parvenu, parce qu'il aurait pu, ayant les talents qu'il avait, il avait tout pour parvenir. Donc pour devenir un écrivain célébré, bon, il a été un peu contre son gré aussi, mais avec ça, se créer une condition dorée, une cage dorée, voilà, et se balader dans toutes les cours d'Europe, et être révéré par tous les souverains. Bon, il veut pas ça. Il veut pas ça parce que il garde un fond de rétivité qui fait que la seule chose au fond qui l'intéresse, c'est qu'on ne lui donne pas sa place, c'est qu'on n'exerce pas d'emprise sur lui. Il ne veut devenir donc l'obligé de personne. Donc il y a des scènes anthologiques où il envoie balader un duc qui veut l'avoir à sa table, il dit non, j'ai pas envie d'y aller, etc., sous des prétextes oiseux. C'est souvent, en général, c'est d'ailleurs très, très, très amusant et très bien écrit. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est de faire des démonstrations, encore et toujours. De faire des démonstrations qui tournent précisément autour de son caractère ingouvernable. Il est ingouvernable. Il est une pure singularité. Voilà, c'est ça qui est intéressant, ce jeu paradoxal entre l'insistance sur le fait que je vaux n'importe qui comme tout le monde me vaut. Donc un sentiment de la réciprocité, l'égalité dans un jeu de réciprocité comme ça. Mais en même temps, je suis l'unique en tant que je suis moi, insubstituable. Donc c'est très compliqué ce jeu, c'est très subtil. Je suis l'insubstituable en tant que je suis l'égal de tout autre et que tout autre est mon égal. Et bon, ça c'est le fond philosophique de, des...
Mais dans ce cas-là, je ne dois pas me plier aux règles sociales qui m'imposeraient une situation subalterne qui n'a absolument aucune fondation réelle.
Tout à fait.
Donc d'où de l'égalité, on va à la liberté.
Et oui, mais comme il vient de nulle part, donc il doit traverser quand même. Il a un chemin social évidemment qui s'impose à lui. Donc il commence tout en bas. Il commence bel et bien comme domestique en livrée, mais dans cette position très étrange où il déteste les domestiques plus que les maîtres encore, c'est-à-dire qu'il déteste avant toute chose l'esprit subalternité, et où il va donc tout faire pour démontrer que certes il est dans cette position-là, mais que cette position ne lui convient vraiment pas, et donc jouer et faire ces fameuses interventions dans un repas de maître où il montre qu'il sait des choses que ne savent pas, que les maîtres ne savent pas, quoi. Bon, voilà, c'est ça. Donc il est l'indocilité, il est l'irréductible aux conditions du social, et en étant cela, évidemment, il prépare sa propre chute. Voilà, c'est ça, il programme sa propre chute, parce que ce jeu est insupportable à la société. Et pas seulement à la société, des nobles, des maîtres, des grands aristocrates, des gens de la cour, etc. Tout le monde. Il va s'aliéner tout le monde. Et à partir de là, bon, ben, il y a ce chemin de la persécution qu'on connaît. Donc, on a beaucoup glosé sur la maladie de la persécution de Jean-Jacques, etc. Mais je crois que c'est pas ça le côté intéressant, c'est pas de faire un diagnostic médical. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce jeu avec l'égalité se déroule, se déploie pendant toute cette trajectoire sur le fil du rasoir, que en effet ça ne peut que déboucher sur une situation, qu'Hannah Arendt appellerait une situation d'acosmisme, c'est-à-dire la situation de quelqu'un qui n'a sa place nulle part au monde. Et c'est exactement ça qui lui arrive à la fin de sa vie. Moi, je pense pas que ce soit, que le tableau, c'est tellement une question de tableau clinique, quoi, que c'est la parano, qu'il est devenu fou. C'est pas ça la question intéressante. C'est encore et toujours la dimension politique, quoi. Un type qui va être jusqu'au bout un pèlerin de l'égalité. Oui, le monde va lui tomber sur la tête. Oui, c'est ce qui arrive à Jean-Jacques, bien sûr.
Et évidemment, éventuellement, ça peut rendre fou. Mais
oui, mais ça, c'est accessoire.
Ça, c'est accessoire. Moi. Oui, c'est ça. C'est le plus du côté des conséquences.
Non, parce que les gens. Alors, il y a beaucoup de critiques qui commencent à tout expliquer par la folie.
C'est ça. C'est pour ça que je renverse les choses.
Et du coup, la politique disparaît. C'est ça.
Ouais. Alors, après, on a encore. Encore 2 minutes peut-être. J'étais un peu surpris en lisant le passage sur Stendhal, parce que Le Rouge et le Noir, j'avoue que je l'avais jamais lu comme ça. Alors c'est sans doute du fait de ma formation, tout ça, bon, l'école, on n'y échappe pas. Mais je voyais Sorel plutôt comme un ambitieux, c'est-à-dire comme une espèce de Rastignac, un personnage qui veut y arriver. Point barre. Et en fait, en vous lisant, on s'aperçoit que vous pointez 2-3 points intéressants où on voit que finalement Julien Sorel a des conduites d'échec qui sont très très proches de celles de Jean-Jacques, justement dans sa susceptibilité, dans son refus d'être considéré comme quelqu'un de subalterne pour pouvoir grimper grâce à ça. J'avais trouvé ça intéressant. Vous l'ajoutez
quelque chose. Il a un côté parvenu. Bien sûr qu'il a un côté parvenu. C'est le côté antipathique du personnage. Et notamment cette façon dont il essaye de parvenir par les femmes, bien sûr. Donc il instrumentalise ses relations avec les femmes. Mais en même temps, il n'est pas parvenu achevé parce qu'il est dans les actes manqués, effectivement. Il y a plein d'actes manqués. Et donc, lui aussi, il va programmer son échec. Et là, ça finit encore plus mal. Évidemment, ça finit sous la guillotine, quoi.
Ouais.
Mais bon, c'est vraiment un personnage ambivalent parce qu'il a... Il y a un côté très, très, très attachant, quoi, quand il est embauché chez la famille de Rénal. La première chose qu'il veut savoir, c'est où il va manger. Parce qu'il ne veut pas manger à l'office. Donc, il est plébéien, de ce point de vue-là. Et ça, c'est Stendhal le désigne comme tel. Mais bon, après, il est pris par ses jeux d'ambition. Enfin, c'est un personnage de la Restauration aussi. Donc, il est pris dans un climat qui n'est pas propice. Il n'est pas dans le côté ensoleillé qui est celui de Figaro. Quoi. Voilà, c'est important la conjoncture, la situation aussi. Il est dans une mauvaise conjoncture. Le côté politique revient par ce biais-là aussi. La Restauration pèse sur lui.
C'est pas le bon moment pour les parvenus.
C'est ça.
Voilà, donc on va s'arrêter là. Donc merci d'avoir répondu à votre invitation. Donc c'était Alain Brossa, Le plébéien enragé, une contre-histoire de la modernité de Rousseau à Lozay, Le passager clandestin. Là, c'était Jeudi Noir et nous reviendrons donc dans 2 semaines. Voilà, donc amusez-vous bien entre temps. Au revoir.
L'injustice des hommes n'existe pas. Cette justice soumet l'homme libre à l'esclavage. Force, je renie cette justice.